Bienvenue sur le podcast Notre Nature Profonde, le podcast qui réenchante notre lien à la nature, celle en nous et celle autour de nous. Je suis Anaïs Lux, amoureuse de cette nature et maman d'une petite exploratrice en herbe de 3 ans.
J'aime bien la nature, j'aime bien sauter dans les fleurs de bois avec mes bottes.
Je vous amène au fil des épisodes à la rencontre de personnes passionnées par ce qu'elles font, passionnantes par ce qu'elles sont, et inspirante par ce qu'elle transmet. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour, Kankyo Tanier.
Bonjour.
Merci infiniment de me recevoir ici à la ferme Kibo, chez vous, en Alsace, dans les Vosges du Nord. C'est une interview un petit peu surprise, qui n'était pas encore prévue hier, donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici et de passer ce petit moment en votre compagnie.
Avec plaisir, pour moi aussi.
Alors, pour vous présenter en quelques mots, Kankyo. Alors, je précise déjà qu'on enregistre dehors, donc on va peut-être entendre un petit peu le vent, les oiseaux et d'autres sons autour. Vous êtes professeur de voix, parler et chanter. Vous êtes aussi hypnothérapeute, ericksonienne, et vous êtes également non-bouddhiste depuis 2002. Vous avez été ordonnée en 2002.
Voilà, c'est ça.
Vous avez écrit également plusieurs livres, Ma cure de silence, Danser au milieu du chaos, À la recherche du temps présent. Il en manque peut-être un.
Non, c'est ça.
D'accord. Ouais. Et vous avez également fondé la ferme Kibo, il y a quelques années, qui est un refuge pour animaux, mais aussi, et on y reviendra tout à l'heure, un centre de formation. Dédié à la
nature
et de retraite. D'accord. Alors, petite question pour démarrer. Est-ce que vous avez un élément de la nature qui vous attire davantage, peut-être en ce moment, peut-être un peu plus globalement, dans lequel vous vous reconnaissez peut-être un peu plus que dans d'autres?
Je ne pourrais pas dire que je m'y reconnais, mais j'ai vraiment une affection, enfin un lien tout à fait particulier avec les chevaux. Donc c'est vraiment eux qui sont à la source de la fondation de ce lieu ici, la ferme Kibo. On n'a 15 chevaux donc, qui ont été sauvés en fait, soit de l'abattoir, soit des chevaux âgés. Et puis c'est vraiment eux qui me parlent le plus au quotidien, notamment dans leur rapport spontané à l'existence. Voilà, j'aime tout chez eux, j'aime leurs yeux, leurs cheveux, je ne dis pas la crinière, c'est les cheveux, j'aime leur odeur surtout, et puis leur manière d'être vraiment extrêmement spontanée et connectée à la terre.
D'accord, merci. Effectivement, donc il y en a quelques-uns là que j'ai vus en entrant, donc l'idée c'est vraiment de leur permettre une fin de vie
heureuse,
tout à fait paisible.
Oui, voilà, c'est ça. On a des grandes prairies, ils vivent en semi-liberté, on va dire. Ils sont à plusieurs par pré, et puis voilà, on est contents.
Ouais. D'accord. Je voulais qu'on s'attarde quelques instants sur votre enfance, si vous êtes d'accord pour nous décrire un petit peu l'enfant que vous étiez, et aussi l'enfant que vous étiez au milieu de la nature, peut-être, si vous aviez des expériences particulières, des souvenirs un peu marquants à nous partager.
Alors, la nature, dans mon enfance, à vrai dire, elle était extrêmement réduite parce que je viens de banlieue parisienne.
Ouais.
Donc, j'habitais dans le département du 93, à Clichy-sous-Bois, plus précisément. Donc, la nature, c'était essentiellement des buildings qui entourent le lieu. Et il y avait quand même un petit bois qui surplombait notre résidence. C'était un peu la nature sauvage pour moi à l'époque. Je me sentais à l'aise dans le béton.
D'accord.
Je me sentais à l'aise dans le bruit, dans voilà. Et puis la connexion avec la nature, elle s'est fait vraiment beaucoup plus tard. Même en arrivant ici au monastère en 2002, je venais de la ville donc, et le monastère est à l'orée de la forêt. On peut dire que j'ai passé 10 ans sans mettre les pieds dans cette forêt. Donc moi, je me reconnectais dès que je pouvais à la ville, je repartais en ville, etc. Et il a fallu un moment un peu triste en même temps, mais j'avais adopté un chat, enfin deux chats, des jumeaux. Et puis il y en a un qui a disparu, qui est parti un jour. Et là, j'ai commencé à arpenter pendant plusieurs semaines l'environnement pour le retrouver en fait. Et j'ai passé, alors d'abord dans les chemins, parce que bon, c'était plus moins dangereux, voilà, comme accès à la nature. Et puis, peu à peu, comme je ne le trouvais pas, je suis allée dans les bosquets, je suis allée un peu partout. Et là, avec ce chat qui a disparu et que j'ai malheureusement pas retrouvé, il y a eu un appel en fait. Et la nature, elle s'est révélée à ce moment-là. D'autant plus qu'en cherchant ce chat, j'ai trouvé également les chevaux qui étaient dans les prés voisins.
D'accord.
Et tout a commencé comme ça. Donc, c'est assez inouï, c'est très tardif.
Incroyable. Ce chat, en fait...
Ce chat, c'était un guide.
Ouais. Voilà. Il vous a mené dans la forêt,
ouais,
petit
exactement.
À petit. Ok. J'ai entendu d'ailleurs que vous aviez vécu pendant quelques temps dans un petit refuge en bois dans la forêt.
Oui, pendant pas très longtemps, mais pendant plusieurs mois, dans un gîte, en fait.
D'accord.
Voilà, il y avait... quand même de l'eau, il y avait de l'électricité, il n'y avait juste pas de chauffage, mais un gîte, et là j'avais besoin de ce temps-là pour commencer mon premier livre.
D'accord, voilà. Oui, c'était un lieu...
un lieu refuge, oui, j'avais besoin d'être isolée à ce moment-là.
D'accord, ok. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir nonne ?
La quête du sens de l'existence. Parce qu'en fait, quand j'étais étudiante ou jeune adulte, le parcours qui était proposé, de fonder une famille, d'avoir un travail assez bien rémunéré, d'acheter une maison, je ne me retrouvais pas du tout dans cette proposition. Ça me semblait manquer de poésie, ça me semblait surtout manquer de ce que j'avais déjà goûté enfant, malgré tout, une sorte de reliance avec l'infini, avec l'inouï, le mystère de la vie. Et donc, je cherchais. Alors, j'ai cherché dans différents domaines, notamment tous les états modifiés de conscience avec les drogues, l'alcool, etc., la danse, et je ne trouvais pas non plus. Et puis, à un moment donné, j'ai eu la chance de tomber sur un livre du Dalai Lama, qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et là, j'ai senti que j'avais trouvé quelque chose, et la démarche a commencé comme ça.
D'accord. Donc, le bouddhisme, en fait... Alors, je ne sais pas si c'est la particularité du bouddhisme, mais en tout cas, c'en est une. Est-ce que c'est juste si je dis que ce serait une sorte de mode de vie ou de philosophie de vie, de spiritualité qui s'adapte au quotidien ?
Oui, c'est ça. Donc, c'est ma pratique bouddhiste, enfin, mon école, c'est le bouddhisme Zen Soto, donc qui a pour particularité de mettre l'accent sur la méditation, donc qu'on appelle Zazen, c'est une forme de méditation assise. Il y a également de la méditation en marchant. Et puis après, dans le droit fil de cette manière d'être au monde, eh bien, on a l'ensemble des autres activités de la journée qui se déroulent, aussi bien ce que sont en train de faire les personnes dans le jardin, donc ce qu'on appelle SAMU, c'est l'activité bénévole, qu'on fait plus dans le silence, dans la concentration dans l'acte, etc. Les repas en silence, etc. Et donc, on a l'idée que cette spiritualité-là, cette conscience des sons du présent, elle puisse se manifester dans toutes nos activités quotidiennes.
Tout faire avec conscience.
Avec conscience,
oui. Et accéder à, oui, en fait, vous parlez du silence intérieur, en fait, c'est ça. Puisque, alors, le silence, on peut l'avoir aussi dans la nature, mais c'est jamais un silence plat, c'est justement plutôt le calme dont on va bénéficier, ne serait-ce qu'ici, là, au milieu des arbres, au milieu du chant des oiseaux et de tous les êtres vivants qui nous entourent. Donc, voilà, ouais, c'est l'idée derrière ça, c'est de...
Alors, oui et non, parce que la recherche du silence intérieur, elle peut être douloureuse, dans le sens où... alors, là, le silence dont je parlais, que j'évoquais juste à l'instant, c'est en fait simplement le silence des mots. On ne va pas... faire comme nous là tout de suite, mais parce qu'on est dans un cadre particulier, mais pour être concentré sur le corps, pour entendre à nouveau l'environnement sonore dans lequel on est, c'est nécessaire de ne pas être en même temps en train de parler, parce que sinon ça nous déconnecte de notre environnement.
Oui.
On s'extrait du monde en parlant, mine de rien.
Ouais.
Et puis le silence intérieur, après, c'est plutôt, évidemment, avec la méditation, on va avoir de moins en moins de pensées, donc on a une sorte de calme qui arrive au bout d'un moment, heureusement. Mais parfois, on peut quand même s'installer en méditation et puis on est agité, on est pris émotionnellement, on a plein de choses. Simplement, ce silence, ça va être d'apprendre un autre rapport aux choses, et l'oiseau est en train de confirmer, merci, un autre rapport aux pensées. Ce n'est pas un combat contre les pensées, mais c'est plutôt apprendre à les observer.
Donc, faire un pas de côté.
Un pas de côté ou un pas en arrière.
Et les observer.
Et apprendre que ces pensées-là ne sont pas moi. Ça, c'est vraiment le thème, si je vais pouvoir développer, si vous voulez.
Oui, bien sûr. Bah, justement, en fait, j'ai l'impression qu'on arrive tout doucement aussi. Moi, j'ai regardé votre TEDx où vous partagez, en fait, trois enseignements que vous avez eus. On est vraiment bien entourés. trois enseignements que vous avez reçus quand vous étiez partie au Japon dans un temple zen. Il y a notamment celui de l'oiseau sur la branche. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces enseignements que vous avez reçus ?
Oui, ce moment en particulier, il était précieux parce que c'était un moment où j'étais dans un trou noir. C'est-à-dire, la vie n'avait plus de sens, c'était juste une profonde colère, un profond dégoût, enfin vraiment ces moments qu'on traverse des fois. Et qui a fait irruption, ou bien effraction dans cet instant-là, c'est justement l'apparition devant la fenêtre d'un oiseau d'une splendeur inouïe. Et en même temps, c'était pas juste la beauté de cet oiseau, c'était qu'il était fin, il était délicat et puis il était fragile. Mmh. Et donc sa fragilité à lui, c'est comme si elle faisait écho à quelque chose que j'avais besoin de laisser ouvrir en moi. Et donc voilà, et ça c'était un très bel apprentissage, c'est celui de l'impermanence qui fait que ben, les choses ne durent pas, donc les états internes douloureux aussi vont nécessairement s'apaiser à un moment donné. L'oiseau m'a dit ça.
Magnifique message de cet oiseau. Mmh. Wow.
Et puis l'autre point important, c'est justement, vous disiez en préambule, un autre, comment dire, se retrouver soi dans un lieu comme ceci quand on fait une retraite spirituelle. En fait, ce qu'on va trouver justement, c'est l'évanescence d'un soi. Ce qui est paradoxal en fait, c'est que à force, alors je vais essayer de vous l'expliquer clairement parce que c'est le point clé du bouddhisme.
D'accord.
Vous voyez, du matin au soir, il y a des pensées qui nous traversent. Qui arrivent sous forme d'images mentales, sous forme d'images qu'on voit à l'extérieur, sous forme de sons qu'on perçoit à l'extérieur comme les oiseaux maintenant, mais aussi des sons internes, et ça c'est tout le dialogue intérieur, c'est-à-dire nos pensées qui parlent et qui disent des mots, des jugements, des analyses. Et l'autre forme de pensée, c'est ce qu'on appelle la pensée du corps, c'est donc tout ce qui va être ressenti, aussi bien au niveau sensations physiques pures, on va dire simples, que toutes les sensations émotionnelles, hein, toutes les émotions qui s'imprègnent dans le corps, enfin, ou qui traversent le corps plutôt. Cet univers-là, on appelle ça, on pourrait dire, l'activité mentale. Et cette activité mentale-là, on n'en a pas le contrôle. Mmh. En fait, quoi qu'on essaye de faire, même en cultivant la pensée positive, le surgissement d'une pensée, c'est spontané. Hein.
Sûr.
Ça émerge d'un coup comme ça. Et donc, ne sachant pas à quoi je vais penser dans 5 minutes, personnellement, ça m'énerve de dire « c'est moi les pensées », vous voyez. Mmh, c'est une rebelle, vous aussi, non? Chacun donne notre style, mais... Du coup, me dire bah, « je ne sais pas à quoi je vais penser, je n'ai aucune idée, je ne sais pas d'où viennent les pensées », parce que toutes les neurosciences, ils disent ça désespérément, mais...
Ça reste un mystère.
Ça reste un mystère. Du coup, pourquoi est-ce que je me mets à y croire? Ça, c'est quand même une question fondamentale.
Pourquoi je m'identifie à elle ?
Pourquoi je m'identifie à ces pensées et que j'y crois, surtout ? Mmh. Alors, en méditation, bah, justement, on va observer tout ce maelstrom. C'est souvent un gros bazar. Hein. C'est rare que ce soit hyper calme. Hein. Je dis ça pour détendre tout le monde. Hein.
Justement.
C'est pas... voilà. Et puis, tout ce maelstrom, bah, j'apprends à l'observer et à trouver néanmoins, en filigrane de ça, une forme de tranquillité et de joie.
C'est ça. Là où circule peut-être encore parfois l'idée que la méditation est associée
au vide,
à l'absence de pensée.
Oui, c'est ça, mais non.
À une sorte de performance où on arrête, on stoppe les pensées.
On peut, hein. Mais oui, c'est pas elles vont revenir. C'est
voilà,
pas un but
ça,
en soi.
C'est ça.
C'est exactement ça. Et c'est beaucoup plus intéressant, je pense, parce qu'en même temps, ça questionne l'identité. Si je ne suis pas mes pensées, qui suis-je ? Et là, encore une fois, ben on trouve qu'on est l'univers entier. Ça veut dire qu'on est créé instant après instant par les choses. On a été, nous deux, créés par l'oiseau. Mm-hmm. On a été créés par le rayon du soleil qui est en train de traverser l'arbre. C'est dans l'instant pur que tout émerge, ensemble, et pas que nous. Tout.
Oui, c'est tout. Tout. L'ensemble. Oui, oui. On apprend aussi par la méditation à s'extraire aussi, s'éloigner peut-être un temps aussi de la personnalité égotique.
Exactement. Mmh. Ouais. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on la nie non plus,
non.
Parce que c'est un élément constitutif de l'être.
Mmh.
Simplement, avoir un rapport plus doux avec ce qu'on pense parfois être nos besoins ou notre histoire personnelle. Mmh. Des fois, la pensée qu'on a sur nous-mêmes, c'est ça qui contracte, en fait. Tandis que si on change notre imaginaire, souvent, ça va mieux.
Oui, tout à fait. Question un peu centrale. qu'est-ce qui vous anime profondément? Quelle est votre nature profonde, Kankyo?
Ça. Ça, alors quand je dis ça, je suis en train de montrer l'environnement. Je sais pas. Enfin, je sais pas. J'ai pas envie de la nommer.
De l'intellectualiser.
Ni de la. De l'intellectualiser, voilà, pour pas perdre le mystère et l'inouï. Ouais.
D'accord.
Je pense plus comme ça, voilà.
Ça marche. Donc oui, vous êtes à l'origine de la création de cette ferme, la ferme Kibo, qui veut dire espoir, c'est
espoir,
ça
oui.
En japonais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de ce lieu? Comment vous est venue cette idée et voilà ce qu'on y fait aussi.
Alors, oui. Disons, je vous parlais tout à l'heure de la découverte des chevaux dans les prés suite à la disparition du chat. Et donc, en voyant ces chevaux, j'ai vu aussi que j'ai commencé à les connaître il y a une dizaine d'années, et puis à connaître leurs anciens propriétaires, et puis les anciens propriétaires qui prenaient de l'âge, et les chevaux aussi. Et donc, on a commencé à réfléchir à un projet. Voilà. Au début, ça me paraissait complètement irréalisable d'un point de vue financier, notamment, parce que c'est un lieu assez cher, qui a coûté assez cher. Mais l'abbé du monastère, lui, m'a dit, était sûr qu'il fallait le faire, voilà. Donc, il m'a dit, ah, c'est bon, vas-y, c'est pas très cher. Puis moi, comme je suis pas très douée en argent, je l'ai cru. Ouais, des fois, hein, on sait pas, c'est irrationnel. Et puis, donc, tout s'est fait, il y a eu pas mal d'étapes, mais tout s'est fait petit à petit. Et l'idée qu'il y a, c'est vraiment d'offrir un lieu, alors, où l'axe principal, c'est la pratique spirituelle qu'on vient d'évoquer. Donc, c'est-à-dire la pratique de la méditation, les repas en silence, l'activité bénévole, la vie en conscience en fait. Hein. Donc, on reçoit ici des gens qui viennent pour une durée de 2 jours à plusieurs mois, ou plusieurs années, certains d'ailleurs. Voilà, qui ont par contre envie d'avoir une vie quand même assez réglée parce que c'est une vie monastique.
Oui.
Donc, on se lève très tôt. On n'a pas beaucoup de temps libre, on a un peu, mais pas beaucoup. Et puis, on est vraiment dans cette discipline, en fait. Hein. C'est vraiment une discipline. Voilà. Pour certains, c'est pour quelques jours, ça les ancre déjà. Pour d'autres, ils ont envie de pratiquer cette discipline plus longtemps. Ça, c'est le premier aspect, donc retraite spirituelle. Le deuxième aspect, c'est en effet un autre lien à la nature en partageant les valeurs de la permaculture. Et le troisième aspect, c'est refuge pour animaux. Donc, il y a 15 chevaux et des lapins, des chats, etc.
J'imagine que le lien aussi doit se tisser petit à petit entre les êtres humains et les animaux.
Oui,
aussi,
et les plantes, les bois, et les roches.
L'immersion progressive, ça permet l'immersion progressive aussi, un retour au vivant en soi et autour de soi.
Oui, oui. Et puis, on a toujours ce souci, vous évoquiez notre conscience qu'on peut tous avoir du changement climatique et puis de la douleur que vit la Terre en ce moment. Notre principe, à la fois en tant que bouddhiste et à la fois en tant que permaculteur, ça va être d'avoir le moins d'impact possible sur le vivant. Donc, de faire attention, c'est toujours une forme de conscience. Est-ce que j'ai besoin de prendre cet objet? Est-ce que j'ai besoin de cet aliment? Est-ce que j'ai besoin? Et toujours d'essayer, enfin, le plus souvent, d'essayer de voir qu'est-ce qui est nécessaire. Une sorte d'articulation entre le faire et le non-faire, vous voyez?
Un juste équilibre à trouver entre les deux à chaque fois. Je voulais vous demander si vous aviez un paysage, alors pourquoi pas ici, ou un autre paysage, un lieu dans la nature qui vous plaît particulièrement et dans lequel vous aimeriez avec quelques mots, peut-être nous emmener, nous le décrire.
Je vais vous parler de notre petit jardin là. Nous sommes là toutes les deux assises devant un jardin qui, en fait, il y a 2 ans, était simplement une étendue de sable, le sable rose des Vosges du Nord, c'est du grès des Vosges. Et puis, il y a 2 ans, on s'est dit qu'on allait faire de cet endroit un jardin-forêt. Donc, tout le tour, il a été planté de 300 arbres fruitiers et arbustes. Il y a eu tout un tas d'enrichissements du sol, il y a eu beaucoup de plantes aromatiques, de légumes, de fruits. On a installé aussi une mare pour la biodiversité, une mare qui est dédiée aux insectes. On a installé des tas de bois pour que puissent nicher tout un tas d'espèces animales, des amas de pierres, enfin. Et ce lieu-là, c'est vraiment pour moi une sorte de merveille. J'adore m'y promener. J'y vais pas trop pour laisser les animaux tranquilles.
Bien sûr.
Voilà, il est clôturé. Et puis, mais c'est un grand bonheur d'y circuler, de regarder pousser les fleurs.
D'y avoir un sentiment d'harmonie.
Oui, exactement. Ouais.
Au contact de ce jardin, on a, je devine au loin.
Il est assez sauvage. Hein, ouais. Il n'est pas du tout organisé. C'est le bordel.
Justement, c'est bien. C'est ça qui est bien. Voilà. Vous faites des conférences, des stages.
Et
du coup, vous proposez aussi vos enseignements pour le public. Vous pouvez nous en dire quelques mots, en fait, parce qu'on sent que c'est vraiment particulièrement important pour vous de faire découvrir aussi le bouddhisme zen au plus grand nombre.
Oui, j'ai vraiment à cœur de proposer un nouveau modèle d'être au monde, d'être humain, de comment est-ce qu'on peut vivre au quotidien. Et donc, je trouve que pour ça, la philosophie du bouddhisme zen, la pratique de la méditation, elle est parfaitement adaptée aux défis de l'époque. Je pense qu'on est à une période charnière où on peut vraiment utiliser ou profiter des catastrophes ambiantes, en fait, pour réfléchir à notre façon d'être. Et en ce sens, les retraites ici, c'est vraiment le but de ça. De qu'est-ce qui se passe quand je consomme moins? Qu'est-ce qui se passe quand je suis plus apaisée avec mes émotions? Qu'est-ce que je vais faire surtout? Et aussi des peurs du futur, de l'éco-anxiété, etc. Et donc, ces pistes, moi, j'essaie de les aborder dans les formations ici ou sur mon blog, etc.
D'accord. Oui, un blog Daily Zen, c'est ça.
Daily Zen, voilà.
Retrouver aussi, on peut retrouver vos articles dessus. Écoutez, un immense merci.
Merci à vous pour votre visite. Spontanée.
tout à fait spontanée, que j'ai adoré. Et surtout dans ce cadre absolument magnifique, ressourçant, propice à se retrouver, justement. Donc, un grand merci.
Merci pour vos questions.
Peut-être à bientôt.
Mais oui,
bon vent à vous.
Avec plaisir. Et bon succès pour votre podcast.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez mettre quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez des personnes à qui ce podcast pourrait plaire ou faire du bien, n'hésitez pas à leur en parler. Vous pouvez également soutenir ma démarche grâce au lien Tipeee qui se trouve dans la description. À très vite pour de nouveaux récits. Près de notre nature profonde.